BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business, Guillaume Boll.
Allez, 18h, il est bientôt 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, l'Europe qui brainstorm sur un sujet qui n'est pas nouveau, c'est son manque de compétitivité face aux États-Unis et à la Chine. Il y a un gros sommet européen qui vient de débuter du côté de Bruxelles. On va vous raconter ça dans un instant. Sinon, alors, grande question du jour, c'est presque un sujet de philo. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'un salaire décent? Le patron de Michelin l'a dit ce matin. Pour lui, en France, le SMIC n'est pas suffisant. Et il veut désormais que ces quelques 132 000 salariés à travers le monde bénéficient d'un salaire décent. On parlera de tout ça, bien sûr, avec nos experts qui arrivent dès 18h30 sur BFM Business. Auparavant, il y aura deux invités au micro d'Edwige Chevrillon ce soir. Pierre de Monstan, cofondateur et président de Planisware, qui est arrivé en bourse aujourd'hui. Ça s'est bien passé. Et puis François Eckhall, le patron de Fipeco, l'un des plus fins spécialistes des questions budgétaires en France. On parlera trajectoire de nos finances publiques avec lui. Tellement sujet à caution, comme vous le savez. Voilà le programme non exhaustif. Nous sommes en chambre jusqu'à 20h. Bonne soirée.
Good evening business, le journal.
Donc c'est un constat quasi unanimement partagé. L'Europe est à la traîne face aux États-Unis dans beaucoup de domaines. Le sommet européen qui débute ce soir à Bruxelles va se pencher sur un gros rapport que vient de rendre l'ancien président du Conseil italien Enrico Letta. Rapport qui le dit clairement, nous devons mobiliser beaucoup plus d'épargne en Europe, notamment dans trois domaines, la finance, l'environnement et le numérique. Astrid Olivier.
Lancer une garantie verte européenne pour investir dans l'environnement, créer un marché unique de l'énergie en reliant les réseaux de transport ou réduire le nombre d'opérateurs télécoms au sein de l'Union européenne. Voilà les mesures concrètes présentées par Enrico Letta. Pour l'ancien Premier ministre italien, il faut aller plus loin pour financer les projets européens avec l'unification des marchés de capitaux.
Nous avons besoin de mettre ensemble le privé, l'argent public, le national et l'européen. Ce que j'ai entendu dans mon tour d'Europe, beaucoup de monde m'a dit « moi je ne veux pas payer pour tout ça ». Il faut qu'il y ait une solution qui soit une solution commune.
Soutenue par la France et les plus grandes économies de l'Union européenne comme l'Espagne, les Pays-Bas ou l'Italie, cette unification du cadre financier ne fait toutefois pas l'unanimité. Une douzaine de pays redoutent ce nouvel échelon qui pourrait limiter la compétitivité de leur propre secteur financier. Le Premier ministre irlandais alerte, l'unification des marchés n'est pas dans l'intérêt de tous et surtout pas pour les plus petits États membres. L'Allemagne pourrait faire pencher la balance. Berlin considère qu'inverser la fuite des capitaux vers les États-Unis est une priorité absolue. Mobiliser l'épargne privée européenne permettrait un apport de 300 milliards d'euros supplémentaires pour l'Union.
Voilà, écoutez Emmanuel Macron à quelques secondes du côté de Bruxelles. Lui insiste sur la nécessité de mobiliser beaucoup plus d'argent dans le secteur de la finance. Écoutez.
Il faut aussi mieux mobiliser les financements privés. Et c'est pourquoi nous avons, à notre niveau, ouvert une nouvelle page aujourd'hui de l'Union des marchés de capitaux. Union d'épargne et de l'investissement, c'est comment faire mieux circuler l'épargne que nous avons sur le sol européen et comment mieux la faire investir dans l'économie européenne.
Voilà Emmanuel Macron il y a quelques instants de côté de Bruxelles et puis alors à ceux, et ils sont nombreux, qui se demandent si la réindustrialisation est vraiment en marche. On a une étude de Capgemini qui nous le dit aujourd'hui, après avoir interrogé 1300 responsables de grands groupes industriels. Oui, la cartographie de l'industrie est vraiment en train de bouger en Amérique, mais aussi quand même en Europe. Jean-Baptiste Huette nous raconte ça.
C'est une véritable lame de fond de réindustrialisation qui parcourt l'Europe et les États-Unis. Depuis la fin du Covid, observe Capgemini dans son étude, les projets pullulent. Des relocalisations industrielles à domicile ou dans les pays voisins. En fait, un vaste mouvement de démondialisation, très largement tiré par le souci des industriels de maîtriser la supply chain et d'atténuer autant que possible les retombées des tensions géopolitiques. Dans le détail, les projets d'investissement en France entre 2023 et 2026 doivent s'élever à 340 milliards de dollars contre 673 milliards en Allemagne et 1400 milliards aux États-Unis. Et pourtant, rapporté au PIB de chaque pays, c'est bien la France qui tire son épingle du jeu, explique Capgemini. Son effort d'investissement est trois fois supérieur à celui des États-Unis. Ceci malgré l'Inflation Reduction Act américain, véritable pompe aspirante. Une dynamique industrielle Europe-États-Unis puissante donc, qui au total, entre 2024 et 2027, devrait générer 3 400 milliards de dollars d'investissement.
Jean-Baptiste Huet, dans l'actualité des entreprises, c'est un dossier que le gouvernement suit très près, celui de Biogarant, groupe qui pèse un tiers du marché français du médicament générique. Il y a des rumeurs de presse qui ont circulé ces dernières heures selon laquelle Servier, la maison mère, serait en passe de vente. Sauf que le gouvernement a fait savoir aujourd'hui qu'il pourrait activer la fameuse procédure IEF, investissement étranger en France. L'État est très vigilant. C'est ce qu'a déclaré tout à l'heure Roland Lescure, le ministre délégué à l'industrie. 18h04, je vous le disais, ça s'agite chez Total Energy. Bonsoir Mathieu Pechberti.
Bonsoir Guillaume.
Ça s'agite parce qu'une poignée d'actionnaires minoritaires, qui pèsent pas lourd, se rebiffent. Alors en gros, c'est pas qu'ils ne veulent plus de Patrick Pouyanné comme PDG, simplement ils ne veulent plus que Patrick Pouyanné soit PDG. Ils veulent dissocier les fonctions de président et de directeur général, c'est ça Mathieu, hein?
Oui exactement, alors effectivement ces fonds, ces petits fonds actionnaires ne pèsent pas grand chose, hein. Moins d'1% du capital, donc dans une société c'est pas lourd, mais on le sentait un petit peu venir ces dernières années sur les critiques à l'encontre des pleins pouvoirs donnés à Patrick Pouyanné, et c'est vrai que sur des capitalisations boursières aussi importantes, hein, c'est environ 160 milliards d'euros à la Bourse de Paris, Total Energy, c'est assez rare d'avoir un seul PDG, en général il y a une dissociation et donc un directeur général et un président. Bon, il y a extrêmement peu de chances, voire pas du tout, que cette résolution passe à la prochaine Assemblée Générale, hein, qui aura lieu à la fin du mois de mai. Le groupe Total a déjà dit il y a quelques mois qu'il souhaitait que Patrick Pouyanné reste à son poste encore pendant 3 ans, puisque son mandat est renouvelé là dans un mois. Ouais. Qu'il souhaitait aussi que les fonctions de PDG restent unies, sauf que ça pose quand même un petit peu la question, un jour, de la succession de Patrick Pouyanné, qui n'est pas tabou, mais qui n'est pas non plus sous. Alors Pouyanné est encore un dirigeant relativement jeune, il a 60 ans, mais la succession du PDG de Total, c'est un sujet à la fois sérieux et sensible, puisque je rappelle quand même que Patrick Pouyanné est PDG de Total depuis 10 ans et qu'il avait pris les rênes du groupe à un moment particulier, puisque c'était suite au décès brutal de Christophe de Margerie, et à l'époque il était l'un des deux dauphins de Christophe de Margerie, et donc ça ouvre quand même, ça pose quand même la question de sa succession, même si elle n'interviendra que dans plusieurs années, sur qui pourra lui succéder. Il n'y a aucun indice, en tout cas confirmé par le groupe, mais il y a quand même quelques personnalités, dont un homme qui s'appelle Stéphane Michel, qui lui dirige la branche dédiée au gaz et aux énergies renouvelables, qui sont les deux activités phare de Total, puisque Total se dirige à la fois et est devenu un gazier, et se dirige évidemment vers une électrification massive dans les décennies à venir. Voilà.
Bon, donc il ne faut pas donner cher de cette résolution qui sera soumise au vote des actionnaires lors de l'AG du 24 mai prochain.
Exactement.
Voilà, pèse 0,62% ces actionnaires frondeurs, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Pechberti avec nous sur BFM Business. 18h06, on va sur les marchés. Les marchés, Aude Kersulec à Euronext à la Défense. Bonsoir Aude, comment ça s'est passé ce jeudi? Bonsoir. On termine en hausse ce soir sur le CAC 40.
Hein. Bien, on est en hausse. En hausse pour la deuxième séance consécutive. On franchit le seuil des 8000 points abandonnés en début de semaine, un seuil psychologique, hein, mais on sait que c'est important, on sait que c'est poussif quand même, hein, depuis le début de semaine. Ça se passe mal du côté de Wall Street où l'on digère le fait que l'on va devoir se contenter de très peu de baisses de taux cette année pour la réserve fédérale par rapport à ce qui était espéré. On a les taux obligataires qui prennent l'ascenseur, toujours très élevé sur le 10 ans américain, 4,64%, ce qui pèse encore sur nos valeurs technologiques, notamment à Paris. Plus forte baisse ST Micro Electronics, plus forte hausse. Heureusement qu'il y avait des publications d'entreprises aujourd'hui. Les résultats, le chiffre d'affaires du premier trimestre, Edenred, première place de notre CAC 40, le créateur des tickets restaurants qui prend 4,8% après un bon premier trimestre où il confirme ses objectifs annuels. C'était le même arbitrage pour Danone qui prenait 0,8%. En revanche, assez mal passé pour Sartorius Cedim Biotech, donc dans la pharma, avec un très mauvais début d'année et moins 15% ce soir à la clôture. Voilà, Planisware, c'était aussi l'introduction en bourse du jour à Paris. On est dans la tech et on a gagné 25%. Donc, premier jour réussi et une hausse ici ce soir à Paris.
Merci beaucoup, Aude Kersulec. Donc, à Euronext, on regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street à la mi-séance. Le Dow Jones qui grappille 0,48%, 37 935 points. L'indice Nasdaq de son côté en hausse de 0,38%, 15 743 points. 18h08, deux invités au micro d'Edwige Chevrillon. Ben, on en parlait justement, Pierre de Monstan, cofondateur et président de Planisware, qui est entré en bourse aujourd'hui, et puis François Eckel, le fondateur de Fipeco. Tout ça d'ici 18h30, bien sûr. Très bonne soirée.
BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview, les grandes interviews, puisque ce soir je reçois deux invités. Je commence par celui qui est déjà en studio avec nous. Il a réussi la plus grosse intro depuis 2021. C'est une intro tech qui se fait très rare à la Bourse de Paris. C'est Pierre de Montsant, le patron de Planisware. Et puis ensuite, c'est l'influenceur des comptes publics, la bête noire de Bercy, que vous connaissez bien sur BFM Business, François Eckal, le président de Fipeco. Bonsoir Pierre de Montsant.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes président cofondateur de Planisware, spécialiste des logiciels de projet. Et donc, vous êtes introduit en bourse. À l'introduction un peu particulière, on va revenir là-dessus. Vous aviez fait une première tentative en octobre, au lendemain du 7 octobre. Donc, évidemment, vous aviez décalé votre introduction. Et puis là, ça y est, vous l'avez réussi, puisque je crois que votre cours a pris 25%. En tous les cas, c'est la plus grosse intro depuis 2021. Alors, en un mot, Planisware, éditeur de logiciels de projet.
Oui, alors en fait, c'est l'idée...
C'est une vieille tech, hein.
Alors, c'est une vieille tech, merci, mais...
Le 1996, non, mais... en général, ils ont 2 ans et demi à peine.
C'est une société qui a mis du temps à s'internationaliser. Mmh. Et ensuite, dans le logiciel, il y a eu une transformation du business pour aller vers le SaaS. Et on a pris le temps de le faire. Et en fait, si vous voulez, on se présente aujourd'hui, puisqu'on a un modèle qui est assez mûr, on est très internationalisé, on est aussi une structure solide. Pour moi, faire une IPO avec une entreprise un peu fragile, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc, ouais. Voilà. Donc on est une tech mature, on va dire.
Une tech mature, mais donc vous l'avez, c'est vous qui avez créé ça donc
en avec des associés, tout ouais. à fait, ouais. qui sont encore au capital et qui sont encore là.
Et alors, vous avez fait une introduction un peu particulière parce que maintenant il y a une nouvelle législation qui le permet. À la limite, c'est une IPO, c'est bizarre, il n'y a pas de particulier.
Alors, les particuliers vont pouvoir investir.
Oui, mais là, vous avez fait ça en 3 jours.
Oui, alors.
C'est étrange. Alors, expliquez-nous comment c'est possible.
Les particuliers pourront investir à partir de mardi. Mm-hmm. Alors, en fait, je vous explique, c'est qu'en fait, on est un peu traumatisé par ce qui s'est passé en octobre. Hein. On avait, quand vous faites une introduction destinée au grand public, vous devez rester 6 jours avec le bouc ouvert. D'accord. Ouais. Parce que c'est une législation européenne, c'est pour permettre aux particuliers le temps de se renseigner sur l'entreprise. Ouais. 6 jours, dans le monde d'aujourd'hui, vous avez vu ce qui se passe, enfin, il y a des événements très fréquemment. Donc, j'ai trouvé que c'était dangereux. Bah, on a pris le 7 octobre entre les deux.
Froide, comme on dit.
Voilà, donc on a préféré. Alors, j'explique l'histoire, parce qu'en fait, on a commencé à revoir des investisseurs en février-mars. Et qui nous ont dit, mais pourquoi vous avez arrêté votre IPO? Nous, on voulait y aller, revenez. Et ils nous ont donné un très bon niveau de support. La législation ayant changé, on peut faire un placement privé et d'en resserrer cette partie de booking à 2 jours. Ouais. On s'est dit qu'avec 2 jours, on prenait beaucoup moins de risques, on était beaucoup moins dépendant des événements géopolitiques. Bon, pas de chance, samedi, il s'est encore passé quelque chose derrière.
Mais encore, vous avez de la chance, il n'y a pas encore la riposte. Donc c'est pour
exactement.
Ça.
Non, mais vous voyez, donc vous passez entre le main et la riposte. Donc si vous passez sur 6 jours... Vous avez quand même une chance ouais. de tomber. Non, mais on est dans un monde qui est un peu et voilà. Donc c'était pour ça. C'était pour minimiser le risque. On avait un bon niveau de support, donc on a préféré faire ça.
Et alors en plus, ce qu'il faut dire, parce que vous avez des clients assez prestigieux. On va voir que pour vous, c'est le fait de rentrer en bourse, ça vous permet de vous donner une forme de la visibilité, de légitimité ouais. à l'international. Mais là, en fait, vous avez des gros investisseurs qui vous suivent. Alors vous en aviez un très important qui est Ardian, un actionnaire historique. Et en fait, vous rentrez quelque part aussi en bourse pour qu'il lui permette de sortir.
Oui, tout à fait. Hein? Bah, en fait, ça.
Si j'ai bien compris.
Oui, vous en avez fait. Ardian est là depuis 20 ans, donc bon, il faut un moment, si vous voulez, qu'il puisse sortir.
Ouais.
Qu'il puisse sortir. Et c'est vrai que plutôt que de faire entrer un autre investisseur privé, on s'est dit que la bourse c'était une occasion, la sortie d'Ardian, pour entrer en bourse, pour être plus visible. La bourse, bon, c'est pas seulement la sortie d'Ardian, c'est la visibilité. Les salariés, il y a une augmentation capitale pour les salariés. On a 80% des salariés qui ont pu y participer, donc il y a quand même grosse demande aussi de la part des salariés. Voilà, donc on se retrouve avec des actionnaires privés, des salariés, et puis bon, bientôt des particuliers, puisqu'à partir de mardi, ils pourront commencer à acheter les actions.
Alors, on en parlait tout à l'heure, là, dans le point bourse avec Aude Kersulac, que l'introduction s'est plutôt bien passée, même si au départ, c'était, vous avez introduit à 16 euros, qui était plutôt le bas de la fourchette, en fait. Mais là, vous avez pris quoi, 25% aujourd'hui?
Oui, on a pris 25% aujourd'hui, donc c'est quand même plutôt bien. Hein. Bon, après, je considère que les introductions en bourse, ça devrait quand même essayer de se passer comme ça, parce qu'il faut quand même qu'il y ait ce qu'on appelle un pop au départ. Hein. Oui, bon. On a choisi, si vous voulez, 16 euros. Je pense qu'à la fois les fondateurs Ardian, on est plus intéressé par ce que va devenir la société à terme et son parcours boursier que bon, chercher de gratter 5% de plus sur le prix, si vous voulez, parce que c'est ça le sujet.
Et quels sont les gros actionnaires qui vous ont supporté, entre guillemets?
On est arrivé en bourse déjà avec un pool de 4 actionnaires, enfin, qu'on a démarré le booking avec 4 ce qu'on appelle cornerstones, donc des investisseurs qui avaient pris position. Donc on avait CDC Innovation, DNCA, qui est un fonds français important, Tiro, qui est un fonds anglo-saxon, et Invesco, qui est un fonds anglo-saxon. Et chacun investissait 25 millions. Donc c'est vrai qu'on arrivait déjà avec 100 millions de garanties et avec des fonds assez prestigieux. Donc c'est vrai que ça a beaucoup aidé l'introduction.
Pierre de Montzantin, une question, parce que souvent, moi, quand je reçois ici des licornes ou futures licornes, ils vous disent, à la limite, nous, on préfère rentrer au Nasdaq parce que la valorisation, elle est bien plus élevée. Vous, la question s'est posée ou c'est pas posée?
Absolument pas. Oui. Alors, la valorisation plus élevée, c'est pas forcément vrai. Quand vous regardez les vrais paramètres de rentabilité, de croissance, c'est pas forcément vrai. Il y a un petit écart, 20-30%. Mais il y a un autre aspect qui rentre en ligne de compte, c'est qu'on est une société française. Notre R&D est en France. Mmh. L'image de la société en France est très importante. On va apparaître dans les plus belles sociétés logicielles européennes cotées. Bon, vous arrivez au Nasdaq, vous êtes un peu perdu au milieu du.
Alors qu'ici, tout le monde dit ah, chic, ah, voilà. Enfin une tech qui s'introduit à la Bourse de Paris, c'est la plus grosse intro. Donc,
on sait que c'est pas mal quand même.
Alors, et ça va vous servir à quoi en fait? Parce que finalement, vous ne dégagez pas beaucoup d'argent, parce qu'il y a une partie qui sert à rembourser Ardian. Mm-hmm. Enfin, vous aussi peut-être, vous les actionnaires.
Alors nous, on est obligé de vendre un petit peu pour qu'on ait ce qu'on appelle un flottant de 25%. C'est-à-dire qu'il fallait quand même, qu'il y ait un minimum qui aille en bourse. Personnellement, bon, c'est pas, ça nous intéressait pas plus que ça de vendre. Alors, à quoi ça va nous servir? Alors déjà, c'est pas vous dire qu'on parle plus de planisseurs aujourd'hui qu'avant, clairement.
Après, vous êtes sur notre plateau.
Les salariés, il y a quand même des salariés avec une partie du capital, 8%, donc ça permet aussi de valoriser leur participation. On va continuer à faire rentrer les salariés dans le capital. Et puis, bon, dans un parcours d'une entreprise, vous savez, à un moment où vous allez peut-être faire des acquisitions, des choses structurelles, donc la bourse peut aider à ce moment-là.
Et alors justement, qu'est-ce que vous allez faire? Acquisition, vous développez à l'international, qu'est-ce que...
Alors, on est très internationaux, on fait 82% de notre chiffre en dehors de France.
Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus?
Accélérer aux États-Unis encore, on fait aujourd'hui, on fait 44% de notre chiffre aux États-Unis. On peut aller beaucoup plus loin. On veut être numéro un sur notre marché. Enfin, ça vous paraît, mais on est société française.
Donc, éditeur de logiciels de projet, comme
ça. Ouais. Donc, on veut aller beaucoup plus loin. Donc, ça va être une trajectoire. Alors, on a une trajectoire raisonnable. Hein, on double tous les 4 ans en taille. Voilà, c'est la vie.
C'est un booster. Donc, en fait, vous faites la pub quand même pour ceux qui vous écoutent. Vous leur dites, ça vaut le coup quand même de rentrer en bourse. Parce qu'il y a des questions.
Moi, je pense que ça vaut le coup. Il faut avoir un modèle bien solide. Il faut bien préparer son coup, mais oui, je pense que ça vaut le coup, sincèrement. J'espère qu'il y en a d'autres qui suivront derrière.
Oui, et puis maintenant, il faut que ça reste dans la durée positif, en fait. C'est ça, souvent, la difficulté, on l'a vu avec Believe. Merci beaucoup, Pierre Demonzant, d'être venu saluer cette introduction en bourse. On voit que vous avez le sourire, donc ça veut dire que vous êtes plutôt content de ces deux derniers jours.
Ça fait.
Merci beaucoup. Le patron donc de Planisware était notre invité. Tout de suite, on va parler de comptes, mais de comptes publics.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Bonsoir François Eckal.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. On vous connaît bien aussi sur BFM Business. Vous êtes allé la référence sur les comptes de la France, les comptes publics, la bête noire de Bruno Le Maire, l'influenceur des comptes publics, comme titraient nos confrères du Monde. Et puis, je conseille à tout le monde de suivre votre sur X ou même sur votre site qui s'appelle Fipeco. Beaucoup de questions à vous poser parce qu'on a bien vu que là, il y a des questions tant du côté de Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, que du côté du FMI. Il y a quand même une remise en cause des prévisions de Bercy, de Bruno Le Maire. La crédibilité est en jeu, à votre avis, la crédibilité du ministère de l'économie et des finances, donc quelque part de la France?
Malheureusement, la crédibilité de la France n'a jamais été bonne sur ces sujets-là. Cela fait à peu près 25 ans qu'on envoie à la Commission européenne des programmes de stabilité, c'est-à-dire des programmes à moyen terme des finances publiques. Voilà, solennellement. Oui. Dans tous ces programmes, on a une très belle trajectoire de réduction du déficit public. Alors, avant, c'était jusqu'à l'équilibre, jusqu'à zéro. Depuis quelques années, on est un peu moins ambitieux. On se contente de viser 3% du PIB de déficit. Mais on n'y arrive jamais. En fait, on ne fait jamais ce qu'on a prévu de faire. Donc, je pense qu'on va, malheureusement, on va continuer. Donc, notre crédibilité, elle est très faible. Elle ne va pas être améliorée.
Quelque part, est-ce que ça a de l'importance ?
Oui, alors ça n'en a pas dans l'immédiat parce que finalement les marchés ne s'inquiètent pas.
La France, les gens se l'arrochent quand même.
Voilà, on continue à emprunter sans aucune difficulté. Le marqueur, c'est l'écart de taux d'intérêt entre la France et l'Allemagne. Il est entre 40 et 60 points de base depuis déjà très longtemps. Il n'a pas spécialement bougé ces trois dernières semaines. Donc tout va bien et je pense que in fine, beaucoup d'acteurs sur les marchés se disent que de toute façon, la BCE sera là le jour où il y aura une inquiétude, où tout d'un coup, ils se mettront tout d'un coup à paniquer, elle interviendra parce que la France est too big, too fail, etc. Elle le peut juridiquement, mais normalement avec des contreparties. Les contreparties, c'est des mesures très dures de redressement.
Alors, on va y revenir, mais oui, mais en même temps, alors je pose cette question, je ne sais pas si vous suivez évidemment Patrick Artus de Natixis. Lui, là, dans son dernier papier, dans ses dernières notes, il dit finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Le niveau des finances publiques, de l'endettement de la France, c'est pas très important.
Si, c'est important. Alors, le problème, c'est que les économistes ne sont pas capables de dire à quel niveau d'endettement, tout d'un coup, justement, les marchés se mettent à avoir peur. Ça peut arriver à des niveaux très, très différents. Personne ne pensait que le Royaume-Uni allait avoir des problèmes il y a 2 ans. Pourtant, il y a 18 mois, tout d'un coup. Mais à l'occasion d'un changement de politique économique, tout d'un coup, les marchés sont mis à s'inquiéter, les taux d'intérêt sont mis à gonfler, et ça s'est traduit, c'est terminé par un changement de Premier ministre.
François Ecal, selon le FMI, le déficit de la France en 2027 sera de 4,3%, soit évidemment un niveau bien plus élevé que ce que dit et re-redit le président de la République, le ministre de l'économie et finances, donc en l'occurrence sous les 3% à 2,9%. Vous, c'est quoi votre pronostic ?
Moi, je ne suis pas prévisionniste, mais je n'ai pas les moyens tout seul de faire ce genre de prévision. Mais je ne pense pas qu'on sera à 3%, parce que ça suppose d'abord que la croissance reparte quand même.
Alors,
voilà. Et puis, ça suppose de faire des économies, puisqu'il n'est pas question. Il y a un peu de prélèvements obligatoires dans le programme de stabilité, mais ça repose essentiellement sur des économies qui sont beaucoup plus importantes que tout ce qu'on a réussi à faire jusqu'à présent.
Il y a un point qui est très intéressant que vous avez soulevé, du reste dans vos notes, c'est que la hausse de la consommation, elle est prévue, elle devrait passer de 0,4% à 1,6% en 2024. Donc, c'est vraiment le moteur de la croissance. Vous y croyez à cette hausse de la consommation des ménages ?
Qu'il y a une hausse, oui. On sait qu'il y a une épargne encore qui a été accumulée pendant la période Covid et qui reste très élevée. Maintenant, il y a peut-être dans cette épargne une partie d'épargne de précaution liée justement au fait qu'on a des déficits publics très élevés, que certains ménages sont peut-être ricardiens, c'est-à-dire qu'ils se disent qu'on va finir par augmenter les impôts.
Il y a un point qui est très intéressant, c'est de voir pourquoi ce dérapage. Parce qu'ici, on dit, mais attendez, Bercy, ils ne sont pas capables de regarder ce qui se passe chez eux. Et qu'en plus, il y a eu cette phrase d'Emmanuel Macron qui est de dire, en fait, on n'a pas un problème de dérapage des dépenses publiques, on a un problème de recettes publiques. Alors, ça fait hurler tout le monde. Mais finalement, c'est quelque part, il a raison, non ?
Oui, il a raison. C'est-à-dire, ce qui a été très étonnant dans le résultat de 2023, c'est qu'on a une hausse du déficit public, alors que la croissance n'a pas été mirobolante, mais elle n'a pas été nulle non plus.
Donc, on pouvait s'attendre. Voilà. Qui ont disparu dans un trou.
Donc, on pouvait s'attendre à une stabilisation du déficit, pas une aggravation comme
et
ça.
Et vous avez l'explication.
Et l'explication pour moi, mais en fait, ça, c'est comptable. C'est qu'en fait, les recettes liées aux impôts, aux cotisations sociales ont très très peu augmenté. Même si on corrige des mesures de baisse d'impôts, etc., elles ont augmenté beaucoup moins que le PIB. Et ça, c'est un peu bizarre, mais pour moi, ça fait suite à une année 2022 qui était anormalement bonne. En 2022, on a battu un record en France en termes de taux des prélèvements obligatoires. Après avoir fait 50 milliards de baisse d'impôts, c'est quand même étrange. Donc, en fait, il y a des impôts qui ont fortement augmenté, comme l'impôt sur les sociétés, qui a toujours un effet d'amplification. l'explication des rebonds de l'activité, donc qui a très fortement augmenté en 2021-2022, les impôts sur l'immobilier aussi, et on est revenu en quelque sorte à la normale. Il y a une sorte de normalisation en 2023. On a une baisse du taux des prélèvements obligatoires. Après 50 milliards de baisse d'impôts, c'est assez normal. À mon avis, c'est 2022 qui était bizarre, c'est pas 2023.
Oui, en fait, donc il y a une contraction extrêmement forte, en fait, de tout ce qui est l'impôt sur les sociétés, les cotisations sociales, et puis les droits de mutation.
Tout ce qui concerne l'immobilier.
Ce qui explique les 20 milliards.
Ça vient. Quand on ajoute tous ces effets-là, on arrive en effet à comprendre ce qui s'est passé en 2023.
Et donc, vous, comment est-ce que vous voyez l'évolution des dépenses publiques? Parce que. Et puis après, je vous poserai évidemment la question fatale, c'est comment faire baisser le niveau des dépenses publiques.
Mais, l'évolution des dépenses, si on ne fait rien, on a des dépenses publiques qui augmentent spontanément. Par exemple, cette année, on indexe les pensions sur l'inflation, donc avec un certain retard. Donc là, ça a conduit à les revaloriser d'un peu plus de 5% au 1er janvier. C'est 14 milliards d'euros de plus de dépenses publiques. Voilà, donc des mécanismes comme ça, il y en a un peu partout dans l'économie.
Et donc, justement, est-ce qu'on ne peut pas dire que les deux erreurs, il y en a peut-être d'autres, hein, bien sûr, mais d'Emmanuel Macron, c'est la suppression de la taxe d'habitation. C'est 20 milliards, ça a quand même coûté 20 milliards au budget. Et comme vous dites, la revalorisation, qui est peut-être légitime, ce n'est pas le débat qu'on a en ce moment, mais la revalorisation des retraites, plus 14 milliards. Donc d'un seul coup, il y a 34 milliards. Hein.
Alors sur les baisses d'impôts et notamment la taxe d'habitation, moi j'ai toujours dit qu'avant de baisser les impôts, il fallait commencer par réduire les dépenses publiques. C'est très facile de baisser les impôts. Les Français sont très contents.
C'est plus populaire. C'est un peu plus compliqué.
Oui. Et donc on voit dans l'histoire de France de ces 50 dernières années qu'il y a des périodes où on baisse les impôts et puis 4-5 ans plus tard, on s'aperçoit que le déficit public est trop élevé et on réaugmente les impôts. Donc je pense, et même je dirais la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ouais. Je suis d'accord pour dire qu'elle pèse sur la compétitivité et qu'il faudrait la réduire. Mais si on la réduit maintenant, si on la supprime maintenant pour la réaugmenter en 2027 parce que le déficit public sera trop élevé, je ne vois pas bien l'intérêt.
Ouais. Est-ce que vous êtes, alors il y a toute cette polémique sur le salaire décent, je ne sais pas si vous avez un avis après les déclarations du patron de Michelin, mais sur mettre une taxe sur les super riches, est-ce que quelque part pour vous, ça serait même en one shot, est-ce que ça serait bien?
Les one shot, ça n'existe pas. Je rappelle qu'il y a une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qui a été créée en 2012, qui est au taux de 3% et 4%, qui s'ajoute à l'impôt sur le revenu. Hein. Donc le taux supérieur du barème, c'est pas 45, c'est 49. Et cette contribution exceptionnelle, si vous lisez le code des impôts, elle durera jusqu'à ce que le déficit public soit ramené à zéro.
Ah oui, d'accord. Okay.
C'était une contribution. À l'époque, en 2012, on pensait que le déficit public, c'était encore l'époque où on faisait des programmes de stabilité qui visaient zéro de déficit, et on pensait qu'on serait à zéro en 2015.
D'accord. La solution, elle vient d'où? Comment est-ce qu'on peut redresser la barre? Je veux dire, parce que s'il faut trouver 60 milliards d'économies, voire 80 milliards d'ici 2027, c'est quelque part, c'est infaisable, non?
C'est faisable techniquement sur le papier.
Sur le papier,
je peux trouver 50 milliards d'économies, mais le problème, il est culturel, politique, social. Dans le contexte, et ça a toujours été le cas en France, ça a toujours été difficile depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est sûr que le quoi qu'il en coûte, même si c'était nécessaire, a aggravé cette difficulté, puisque les gens ont l'impression aujourd'hui qu'il suffit de demander des milliards pour que les milliards pleuvent.
Un mot, et on pourra continuer à en parler avec vous, François Eckhall, dans le débrief. Un mot quand même, c'est le problème, il vient essentiellement de l'évolution des dépenses publiques et du nombre de fonctionnaires des collectivités locales. En tous les cas, vous avez un graphique qui est excellent chez vous.
Le problème, il est multidimensionnel. Ouais. C'est un peu tout. Quand on fait des comparaisons avec les autres pays européens, c'est un peu sur tous les postes qu'on a des dépenses plus élevées que les autres. Donc, c'est les retraites, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est la culture, c'est un peu partout. Donc, et c'est les collectivités locales, entre autres, en effet. C'est en effet une partie du problème. Donc, on ne pourra résoudre ce problème de dépenses et de déficit, en effet, que si on met à contribution les collectivités locales, c'est sûr.
Merci beaucoup François Eckhall, donc le patron de Fipeco. Je vous invite vraiment à suivre son compte et son site, et on vous retrouve du reste pour le débrief. Merci beaucoup François Eckhall. Tout de suite, Guillaume Paul nous apporte toute l'info.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h35, ils sont là, nos experts. Audrey Tcherkov est avec nous. Bonsoir, Audrey.
Bonsoir, Guillaume, et bonsoir à tous.
Avec, bien sûr, jusqu'à 20h, qui est avec nous, l'économiste Pascal Delima. Reste
bonsoir.
Avec nous. Bonsoir, Pascal. François Eckel, le fondateur de Fipeco, reste avec nous. Rebonsoir, François Eckel, et Pierre Chevrillon, bien sûr.
Bonsoir.
Vous ne nous avez pas rassurés pendant ces quelques minutes d'interview sur l'état de nos finances publiques, fondamentalement. Non. On se demande toujours. Alors, c'est une question que je me posais. L'effort de guerre, en fait, pour aller chercher, oui, pour aller chercher les 3%, alors je ne dis pas même pas 2,9, 3% en 2027, ça se chiffre à combien rien que ça, François Eckel, finalement ?
L'estimation qui est court en ce moment, qui est aussi bien celle du Haut Conseil des Finances Publiques ou de Bercy d'ailleurs, c'est autour de 70 milliards d'euros.
Voilà. Bah, ce qui veut dire qu'en fait, il faudrait faire en 3 ans, ce qui n'a jamais été fait en 7.
Ah, exactement.
Oui.
Oui,
donc ça semble assez compliqué.
C'est très bien présenté. C'est là. Donc là, ça va être très difficile.
On est parti pour 20 milliards cette année, 20 milliards encore l'an prochain.
La marche d'escalier qui est prévue dans le programme de stabilité pour l'année prochaine est très très haute, puisqu'il s'agit de réduire le déficit de 1 point de PIB. Donc c'est, on ne s'en rend pas compte, mais 1 point de PIB, c'est une trentaine de milliards. Alors la croissance va permettre d'en faire un peu,
oui.
Mais ça veut dire que dès l'année prochaine, il faut trouver aussi, en effet, une vingtaine, peut-être un peu plus que 20 milliards d'économies ou de hausse d'impôts.
C'est ça que... Ah, voilà.
Oui. Ah oui,
il y a des impôts hein, dans le programme.
Il y a des hausses d'impôts.
Bah
oui,
en fait.
Enfin les hausses d'impôts pour le moment, c'est une ligne rouge affichée de la part du gouvernement.
Alors il faut s'entendre. Il y a
de
des relèvements d'impôts qui ont été réduits temporairement,
oui.
Comme la taxe sur la consommation d'électricité. Ça fait 5 milliards déjà cette année. C'est pas négligeable.
Oui.
Et puis ensuite, vous avez probablement des réductions de dépenses fiscales. Je pense qu'on en parle. Je pense que dans ce programme de stabilité, implicitement, il y a de telles réductions. Mais réduire une dépense fiscale, c'est augmenter l'impôt pour quelqu'un.
Et oui.
Donc, dans le discours politique, on joue un peu sur les mots, dépenses budgétaires, dépenses fiscales.
Oui, c'est ça, mais voilà. Enfin, on a un gouvernement
Mais je pense qu'implicitement, il y en a dans le programme de stabilité.
Mais on a un gouvernement qui nous dit, les classes moyennes, on n'y touchera pas. On n'augmentera pas leurs impôts, oui. Les entreprises non plus, puisqu'on est dans la politique de l'offre, et les super riches, on n'y touchera pas non plus. Alors Edwige, où est-ce qu'on peut aller chercher de l'argent ?
Ah ben ça c'est ma question, mais justement on en parlait à l'instant. Si l'on en croit un peu tout le monde, c'est d'essayer d'arrêter, de freiner, parce que il faut quand même voir que là on n'est pas dans la moindre dépense publique. L'idée c'est de freiner l'évolution des dépenses publiques. Hein. Donc non mais c'est ça qu'on oublie tout le temps. C'est comme cette image du gros paquebot. Quand il rentre au port, en fait, même s'il coupe le moteur, il continue à avancer. Mais nous, c'est un peu le problème qu'on a depuis plusieurs années.
Oui.
Ça, c'est un point.
Mais enfin, on a un gouvernement aujourd'hui qui est le gouvernement le plus cher de la Ve République.
Mais
la
milliards.
Fameuse revue des dépenses publiques promise par Bruno Le Maire, on n'en a toujours pas vu la couleur et on a des dépenses de fonctionnement qui ne font qu'augmenter.
Oui, c'est très compliqué.
Pascal Delima.
C'est très compliqué cette histoire parce qu'en fait, on peut faire effectivement des raisonnements statistiques tout à fait tenables et rigoureux à partir d'un certain nombre de modèles et de prévisions de croissance économique. Mais aujourd'hui, on est dans une ère mondialisée où il y a des paramètres d'incertitude qui sont encore extrêmement forts et encore aujourd'hui. Hein, je veux dire par là que ce qui va impacter in fine la dette et donc le déficit, c'est la conjoncture internationale qui va impacter la croissance économique française. Et donc là, sur la conjoncture internationale, on ne sait pas encore grand-chose de ce qui va en être de la guerre en Ukraine, on ne sait pas encore grand-chose de ce qui va être de la croissance allemande. Il y a des paramètres d'incertitude, alors ça c'est très pessimiste, mais il faut quand même rentrer aussi dans le concret, c'est qu'on fait aussi des raisonnements toutes choses égales par ailleurs. C'est que on dit aussi, pour rentrer vraiment dans la macroéconomie, qu'en gros les taux d'intérêt vont rester autour de 3,5-4%, que l'inflation va être autour de 3% et que la croissance va être entre 0,8 et 1%. Ce qui fait que
le meilleur des cas. Hein.
Le rapport des taux d'intérêt réels par rapport au taux de croissance va rester le même. Ça, c'est un deuxième point. Et pour conclure, je dirais qu'il y a des incertitudes. Il y a des hypothèses fortes sur la conjoncture internationale, il y a des hypothèses fortes sur les modèles statistiques au sens propre du terme, mais il y a une règle de l'histoire économique que l'on connaît aujourd'hui, qui est qu'en général, lorsqu'il n'y a pas de croissance, il vaut mieux faire des économies de dépenses pour deux tiers et un tiers, par conséquent, de hausse d'impôts. Il faut éviter de faire du 100% hausse d'impôts, évidemment. Il faut éviter de casser la croissance par les mécanismes de freinage de la consommation et du keynésianisme, comme le disent les économistes. Mais, et donc, un deux tiers économie de dépenses, un tiers de hausse d'impôts peut permettre de ne pas saper le peu de croissance qui existe.
Vous parliez de croissance. J'ai l'impression qu'on est un petit peu démissionné depuis quelques temps, qu'on est moins dans l'idée d'aller chercher la croissance avec les dents.
Mais
et on s'imagine que la maîtrise des dépenses publiques passera juste par une réduction.
C'est une carotte qui fait du reste que les marchés sont très hauts. Tout le monde s'interroge en disant pourquoi les marchés sont si hauts.
Oui.
C'est qu'en fait, en plus avec ce qui se passe sur le plan géopolitique, donc évidemment, bien et sûr. On ne sait pas très bien où ça va nous conduire.
Oui, tout à fait.
Encore une fois. Mais ce qui en fait les maintient et ce qui fait qu'il y a toujours un peu d'espoir, c'est la perspective des baisses des taux d'intérêt. Autant ça a cassé la croissance avant, autant là, du coup, en fait, ça crée quand même un climat plutôt positif. Alors que normalement, on est
alors
pas,
attention.
Ça plutôt
oui, mais alors Edwige, warning total, puisque là, on comprend bien que du côté des États-Unis, en tout cas, l'inflation ne refait pas.
Là, je parle de
donc la Fed. Oui, mais il est quand même très rare que la BCE ne suive pas la Fed. Donc la Fed dit qu'on ne baissera pas nos taux.
Christine Lagarde l'a encore redit, je crois que c'était hier, avant-hier, elle a dit que la Banque Centrale Européenne est indépendante, est bel et bien indépendante de la Fed. Ça voulait dire que si la Fed ne maintient pas ses taux parce que l'inflation aux États-Unis en fait, est beaucoup plus élevée que ce qu'on craignait, que ce qu'on souhaitait, eh bien, du côté européen, elle peut très bien.
Vous y croyez, François Escal, à une décision indépendante de la BCE?
Oui, elle est indépendante, elle est obligée de tenir compte de ce qui se passe aux États-Unis.
Oui.
Mais compte tenu de ce qui se passe aux États-Unis, oui, elle prend ses décisions de matière indépendante, bien sûr.
Dernière question, François Escal, puis on va parler un petit peu des salaires décents après. Edwige, je vous posais la question tout à l'heure, jusqu'à quand ça tient aux yeux des marchés financiers? Vous disiez, la Banque Centrale Européenne sera toujours là. Et vous disiez, finalement, le juge de paix, c'est l'écart de taux entre la France et l'Allemagne. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'il y ait une divergence véritablement entre les taux d'intérêt français-allemand? Ça serait quoi, un choc politique? Ça serait un choc de quel ordre?
Moi, je pense plutôt à un choc politique, oui.
Un choc politique?
Je pense que tant qu'on fait, je dirais, quand on montre qu'on a quand même l'intention de garder un certain sérieux budgétaire, même si dans la réalité...
Dans le discours,
après,
en tout cas.
Dans le discours, en tout cas. Oui. Je pense que... Parce que ça rassure quand même aussi nos interlocuteurs internationaux. Oui. Ça rassure la BCE, ça rassure les... Même
donc
si
Bruno
ça
Le Maire
bien,
a raison
donc il a raison de tenir ce discours, etc. En revanche, un changement politique, le jour où on ramène la retraite à 60 ans en France, alors là, il y aura peut-être un problème.
Oui, c'est clair. Edwige Chevrier.
Un tout petit point, je ne vous ai pas posé cette question tout à l'heure. Vous dénoncez qu'en fait, vous dites qu'il y a eu un changement de méthode, notamment dans les dépenses. Est-ce que vous nous expliquer en quoi est-ce qu'ils ont triché à Bercy?
De dépenses fiscales?
Oui, je mets ça entre guillemets.
D'ailleurs, la Cour des comptes a repris la même critique que faisait l'automne dernier. Il y a une baisse totalement artificielle des dépenses fiscales de 10 milliards qui concerne la TVA. Jusqu'à il y a deux ans, les dépenses fiscales relatives à TVA, c'est-à-dire les taux réduits de TVA, le taux réduit sur la restauration, l'entretien, 5,5, ça coûtait 20 milliards, puis tout d'un coup, ça ne coûte plus que 10 milliards. En fait, c'est parce que Bercy s'est dit, mais en fait, la TVA, elle est rétrocédée pour moitié aux collectivités locales, donc je n'en compte que la moitié.
Mais alors ça veut dire
le problème, c'est que ils n'ont pas fait le calcul pour les années antérieures.
Ah
donc si vous, je dirais naïvement, vous regardez le chiffre des dépenses fiscales d'il y a 3 ans et celui de cette année, extraordinaire, ça a baissé.
Non. Alors donc, est-ce qu'on peut parler d'un budget insincère qui a été présenté par le gouvernement il y a quelques mois?
Alors, c'est pas le budget lui-même, c'est dans un rapport qui est annexé au budget, l'évaluation des dépenses fiscales.
Oui.
Mais oui, il y a un problème de sincérité que la Cour a repéré dans son rapport.
Bon, c'est clair.
Voilà pour
nos
dépenses. Et je vous rappelle qu'au milieu de tout ça, les premières agences de notation, Fitch et Moody's, se prononceront sur la note de la France dans 8 jours.
Oui, ça va
le
arriver vite.
Le 26 avril, très précisément. Voilà pour nos déficits publics. À part ça,
un autre sujet d'économie, presque de philosophie, c'est cette question qui a reposé ce matin d'une certaine façon le patron de Michelin, Guillaume. Qu'est-ce qu'un salaire décent?
En tout cas, il l'a dit, Florent Ménégo, le SMIC aujourd'hui n'est pas suffisant à nos yeux. Il considère par exemple qu'à Clermont-Ferrand, le salaire décent doit être 20% supérieur au SMIC et ça va être le double à Paris. Il généralise tout ça aujourd'hui, Florent Ménégo, mais vous allez voir qu'il nous en parlait déjà un petit peu de tout cela. C'était il y a 2 mois sur BFM Business, écoutez.
A déjà déployé, et aujourd'hui, au 1er janvier 2024, 100% des salariés de Michelin, quelle que soit leurs activités, partout dans le monde, sont à un salaire minimum défini par Michelin.
Et nous avons... Qui est au-dessus du SMIC.
Qui est très au-dessus du SMIC en France.
Très au-dessus, c'est-à-dire combien?
Très au-dessus, entre 40 et 50% au-dessus du SMIC.
Ah oui.
Oui.
Ça, c'est le salaire minimum Michelin.
Oui, le salaire minimum, il est défini pour dire qu'il faut qu'un salaire puisse permettre à une famille composé de deux adultes et de deux enfants, de pouvoir avoir accès non seulement à la nourriture, mais aussi au logement, à la culture, au transport, aux loisirs, aux vacances. Et parce que derrière, ce qui est important, c'est qu'une personne puisse se projeter. Ouais.
Je pense qu'on ne va pas boucler ce débat en 3-4 minutes là, en direct ce soir, mais qu'est-ce qu'un salaire décent quand même
C'est-à-dire qu'il faut poser un problème économique autour de cette question-là. Et pour moi, le problème économique, il est quel est le paramètre essentiel pour garder les salariés dans l'entreprise, pour limiter le taux d'attrition et le turnover. Et quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui sur le marché du travail, on voit des phénomènes quand même de grande démission, on voit des phénomènes de revendications à tout va. Enfin, il y a un certain mal-être parfois dans les entreprises aussi. Et c'est ce contexte global de grandes démissions. On parle aussi de loud démission, enfin de loud quitting, enfin d'un certain nombre de phénomènes qui sont propres aujourd'hui aux revendications de plus en plus virulentes à l'intérieur des entreprises, au manque de reconnaissance, etc. Eh bien, lorsqu'on fait des enquêtes qualitatives, on s'aperçoit que le critère numéro un, c'est pour 79% des salariés, c'est
la
salaire.
La rémunération. Ouais.
Donc la rémunération, le SMIC, on sait très bien qu'aujourd'hui, il ne permet pas aujourd'hui la survie d'un certain nombre de salariés dans les entreprises, et que par conséquent il faut aller un tout petit peu au-delà lorsque les entreprises le peuvent, et on sait que les marges des entreprises moyennes de 30% quand même sont quand même relativement correctes aujourd'hui en France en tout cas, donc certaines entreprises peuvent commencer à se lancer je dirais dans cet état d'esprit je dirais d'être en entreprise et que l'entreprise soit au service des humains, d'une certaine façon, pour faire en sorte que la motivation soit là et qu'on aille quoi faire ? Chercher la croissance, celle qui nous manque, celle qu'on dit parfois qu'elle est un peu hypertrophiée, mais qui ne l'est pas à mon sens, parce que c'est le seul moyen d'arriver à assurer cette transformation numérique, écologique, l'arrivée des innovations disruptives, les métiers de demain. C'est là que va se jouer, je pense, le challenge.
Non, mais alors, c'est sûr que si on regarde, Edwige, sur les 10 dernières années, les dividendes versés aux actionnaires sont beaucoup plus élevés que la hausse des salaires. Donc, on peut dire qu'il y a une vraie marge de progression.
Ils sont réinvestis. Non,
mais ça, c'est sûr. En même temps, ce qu'on veut dire, c'est déjà les salaires, c'est avant. Le dividende n'arrive qu'in fine. Hein, donc, il ne faut pas non plus comparer. Un point d'abord, je ne sais pas si c'est fait exprès. Je n'ai pas eu l'occasion d'appeler la direction de la communication de Michelin. Mais c'est assez drôle, ça tombe sur le lendemain de toute la polémique autour du salaire de Carlos Tavares. Ouais. Bon, c'est parce que là, on voit bien la différence de culture aussi, parce que Michelin a toujours une culture extrêmement sociale. On s'en souvient, Jean-Dominique Sénard, du reste, qui était le prédécesseur de Florent Ménégaud, et quelqu'un qui avait vraiment ce sentiment très très fort, hein, c'est imprégné dans l'histoire de Michelin. Et puis là, il dit quand même, il enfonce... Il y a deux tabous qui sur lesquels il s'assoit allègrement, Florian Ménégaud, pourtant c'est un homme prudent, et c'est parler du salaire décent, tout le monde, ce mot, c'est un mot très fort, et je crois que ça a interpellé beaucoup de chefs d'entreprise. Et puis surtout, il dit, en fait, d'accord, la vie, elle coûte plus cher à Paris qu'elle le coûte à Clermont-Ferrand.
Voilà, c'est ça, parce qu'on peut vivre du SMIC, on est bien d'accord. Mais pas partout.
Et nous, c'est égalité, on est dans un pays où c'est vraiment écrit partout, liberté, égalité, fraternité. Oui. Donc, il n'est pas question, même, vous savez bien, il y a tout un débat autour du RSA pour savoir s'il faut qu'il soit le même quand vous habitez à la Martinique, vous habitez à Mayotte ou vous habitez à Paris. Là, lui, il dit, ben non, c'est pas, on a besoin de salaires différents. Et ça, je pense que ça va venir dans un deuxième temps, c'est un point important à soulever. Et puis sur le salaire décent, il a raison, il faut augmenter les salaires.
Mais... C'est quoi le salaire décent ? Alors le SMIC annuel, c'est un peu plus de 21 200 euros.
Oui, c'est grosso modo 1 400 euros.
Salarié Michelin à Clermont-Ferrand, on est à 25 300 et salarié Michelin à Paris, on est quasiment à 40 000 euros. Voilà.
Il y a aussi Michelin aux États-Unis.
Oui, absolument.
Et en Chine, etc.
C'est ça qui est important, parce que même aussi en Inde, etc., c'est de montrer que tous les salariés aient une protection et un salaire qui correspondent justement au niveau de vie du pays où ils sont.
C'est ça, donc une nouvelle politique salariale à l'échelle mondiale pour Michelin. Mais il faut rappeler aussi qu'il y a quelques années, en juin 2022, un texte a été voté au sein de l'Union européenne pour mettre en place un cadre commun pour assurer à chacun un salaire suffisant pour un niveau de vie décent. Mais ça n'a pas été associé de mesures coercitives. Est-ce que c'est ce qu'il aurait fallu faire, Pascal ?
C'est-à-dire que, là, on a affaire à une entreprise qui a sa politique de rémunération à l'échelle mondiale. Effectivement, si on porte le sujet au niveau plus politique, et au niveau de l'Union européenne, pour les États, et non plus les entreprises. À ce moment-là, les décisions, c'est comme la taxe Tobin, c'est comme les taxes sur les multinationales, c'est comme les taxes sur les plus riches. Les décisions doivent se faire au niveau de l'Union européenne. Sinon, on a des distorsions de concurrence considérables. Sinon, on a des problèmes de coopération économique. Sinon, on a des différences parfois de salaire.
Déjà, on a des variations en termes de salaire minimum au sein de l'UE, absolument énormes. En Bulgarie, c'est 400 euros. Luxembourg, 2005. En Allemagne, c'est 2000.
Alors, je voudrais pas faire.
C'est le grand écart.
Je voudrais pas faire entendre quand même que les inégalités ont augmenté dans le monde. Les inégalités ont baissé. Les inégalités ont baissé entre pays dans le monde depuis 20 ans. Le vrai problème, c'est les inégalités à l'intérieur des pays. Oui. Donc à l'intérieur de la France, à l'intérieur de la Pologne, de la Hongrie. Et c'est là que les choses peuvent être impulsées au niveau de l'Union européenne.
Il met un coup de projecteur sur ce dossier qu'a relancé Gabriel Attal. C'est désmicardiser la France, l'évolution du taux de smicard en France aujourd'hui.
Parce que c'est l'inverse. Le smic, a beaucoup augmenté.
Oui.
Ce qui fait qu'il a rattrapé, il a rattrapé les autres salaires. Il a écrasé l'échelle des salaires.
Vous avez aujourd'hui 17% des salariés français qui sont au SMIC.
C'est
considérable. Oui, mais alors justement, vous parliez tout à l'heure de charges. Vous disiez, pour augmenter aujourd'hui un salarié de 100 euros au niveau du SMIC, l'employeur doit débourser entre 250 et 300 euros. Voilà, c'est à ce niveau-là qu'il faut faire bouger les lignes véritablement.
Oui, là, on est sur les charges fiscales. Il y a plein de paramètres. Il y a la fiscalité, il y a la performance aussi individuelle qui est importante. On n'en parle pas toujours. Mais je veux dire, il y a des fiches de poste, il y a des objectifs qui doivent être atteints.
Les exonérations sur les bas salaires, c'est aussi
Les exonérations sur les bas salaires, effectivement. Bon, on s'aperçoit que ce sont les créations d'emplois consécutivement à un abaissement de charges patronales, par exemple, sont souvent assez.
Oui, c'est vrai, mais enfin, en tout cas, vous aviez raison, la France a un profil très particulier en ce sens où elle est de très loin le pays où la proportion de salariés payés au salaire minimum est la plus élevée comparée à ses voisins.
Oui, on a aussi une forte protection sociale, on a aussi, vous savez, c'est tout est thèse, antithèse. On a fortement protégé les Français.
On a une école publique,
on a des déficits élevés.
Allez, pendant ce temps, la France et le Brésil accélèrent. Bruno Le Maire et son homologue Fernando Haddad présentent aujourd'hui à Washington leur proposition commune de taxation minimale des milliardaires.
Parce que vous savez que le Brésil préside le G20, en fait, il y a une priorité, et Bruno Le Maire veut aller chercher de l'argent qui arrive à passer entre les mailles de filet, vous savez, de l'optimisation fiscale. C'est facile à mettre en place, disait il y a encore quelques heures l'économiste Gabriel Zucman. Un mot, 30 secondes chacun, peut-être là-dessus, parce qu'on doit ensuite...
Laisse Pascal, moi je me suis déjà exprimé hier.
Est-ce que c'est si facile que ça d'aller chercher de l'argent?
Prenons l'exemple de la taxe Tobin, ça a échoué, parce que si vous taxez les patrimoines, la liquidité diminue. La valorisation patrimoniale peut diminuer aussi. C'est ce qui s'est passé dans les expériences sur les actions pour la taxe Tobin. Donc, à discuter, mais il faut vraiment rentrer dans la technique.
On peut prendre aussi l'exemple de la taxe minimale sur les entreprises qui a pris 7 ans à être votée, mais qui a été votée.
Qui a été votée. Après, moi j'ai toujours un peu de mal avec les taxes, mais bon, je trouve que c'est un peu punitif à chaque fois.
Moi, Edwige, je combat de longue haleine.
Aussi, je vois pas très bien comment ça peut être fait, accepté par les États-Unis, fait au G20.
Et pourtant, Joe Biden est pour.
Quoi?
Joe Biden est pour.
Ok, mais j'ai envie de dire, and so what? Vous voyez ce que je veux dire?
C'est un changement quand même culturel.
Il nous reste 3 minutes. On voulait dire un mot de cette affaire pour terminer qui monte depuis quelques heures, qui a vu le président de Renault, Jean-Dominique Senard, porter plainte contre la ministre de la Culture, Rachida Dati. Bonsoir Mathieu Pechberti.
Bonsoir.
En gros, il l'accuse de ne pas être en mesure de justifier les 900 000 euros qu'elle a touchés pour un travail soi-disant effectué il y a une dizaine d'années pour Renault. Du temps de Carlos Ghosn, c'est ça devant l'histoire, Mathieu?
Oui, exactement. Pour revenir un petit peu quand même sur le départ, parce que c'est une affaire qui n'est pas évidente. Rachida Dati a travaillé pendant 3 ans, en tout cas a effectué des missions pour Renault entre 2010 et 2012, à l'époque où Renault était dirigé par Carlos Ghosn, et elle a effectivement touché, ça a été prouvé, 900 000 euros, 300 000 euros par an pendant 3 ans. Et lorsque Carlos Ghosn a été arrêté, il y a un audit qui a été lancé chez Renault. Ils ont trouvé effectivement des virements d'une filiale de Renault qui était liée à l'alliance Renault-Nissan, mais je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, envers Rachida Dati. Sauf que le problème, c'est que à la fois cet audit et surtout la justice, parce qu'on parle bien de ça aujourd'hui, n'ont pas trouvé de preuves du travail ou d'un quelconque travail ou d'une quelconque mission qu'elle aurait effectué. Et tout le nœud du problème se trouve ici. Elle a fait plusieurs demandes d'actes juridiques auprès de l'instruction pour forcer Renault à alimenter ses preuves. Et Renault ne cesse de dire depuis maintenant plusieurs années qu'ils n'ont rien trouvé. Le parquet national financier qui enquête évidemment là-dessus l'a mise en examen il y a maintenant 3 ans.
et dit qu'effectivement, elle a eu du mal à prouver qu'elle avait vraiment réalisé un véritable travail, ou en tout cas de véritables missions. Donc elle continue d'attaquer et de dire que en fait c'est Renault qui dissimule des preuves, que Jean-Dominique Senard n'a pas livré à la justice l'ensemble de cette audite et donc qu'il en cache une partie, et notamment qu'il refuse finalement de prouver qu'elle a travaillé pour elle.
Et donc il contre-attaque.
Et donc là, il a commencé un petit peu à s'agacer et il contre-attaque. Donc il annonce, alors c'est une plainte pour dénonciation calomnieuse, donc on reste sur des sujets, on va dire, de en tout cas diffamatoires. Mais c'est assez rare, d'abord parce que le personnage est quand même pas quelqu'un de très belliqueux, contrairement à Rachida Dati. C'est l'ancien président de Michelin d'ailleurs, hein, dont on vient de parler, où c'est la culture est plutôt soft, discrète. Il a porté plainte lundi dernier. L'info a été révélée par nos confrères du Nouvel Obs d'ailleurs, qu'on nous a confirmé évidemment. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que l'ensemble du conseil d'administration de Renault a été évidemment informé par son président, Jean-Dominique Senard, de cette plainte. Et qu'au conseil d'administration de Renault, vous avez des représentants de l'État, français actionnaire, et que l'État, en tout cas, ne s'est pas opposé à cette plainte. Donc en plus, ça crée quand même une sorte de bisbille gouvernementale entre Bruno Le Maire et Rachida Dati.
Bien sûr, et c'est aussi compliqué de demander son avis à Carlos Ghosn, évidemment.
Sur le fond, on attend de savoir ce qui va se passer. Il y a de fortes chances, je suis évidemment extrêmement prudent, mais on a cette info de source judiciaire évidemment très sûre, il y a de fortes chances que Rachida Dati, dans cette affaire en tout cas, soit renvoyée devant un tribunal, compte tenu du fait qu'il n'y a pour le moment aucune preuve d'émissions qu'elle aurait effectuées chez Renault.
Edwige, commentaire sur cette...
Non, bah, c'est une histoire qui, comme l'a souligné Mathieu, qui dure depuis quand même très très longtemps. On a du mal à savoir, à décortiquer un peu le vrai du faux. Il n'y a pas d'enquête. Alors, elle dit qu'elle a fait des enquêtes. Il n'y a rien de matériellement démontré. Donc, de ce point de vue-là, je n'ai pas grand-chose à dire parce que je pense que c'est un dossier... effectivement, qui va être très compliqué à mener.
Au long cours, et Mathieu Pechberti sera ça, bien sûr, sur BFM Business. Merci beaucoup, merci Mathieu Pechberti. Pascal Delima va revenir avec nous dans un quart d'heure pour sa pénitence jusqu'à 20h. Edwige, on se retrouve lundi prochain.
Oui, lundi, ça devait être Henri Coletta qui a présenté aujourd'hui son plan. Et puis finalement, il part aux États-Unis, donc voilà. À suivre.
Surprise, suspense.
Rendez-vous lundi prochain, 18h57. Nous revient dans un instant.
Bien sûr, on reste ensemble en direct jusqu'à 20h. À tout de suite.